7 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins. Aujourd'hui, nous entrons dans les coulisses de métiers omniprésents et pourtant ignorés ou peu considérés. C'est en recevant le livre d'un ancien vigile ivoirien en France que nous avons eu envie de comprendre. Surveiller, attendre, s'ennuyer, gauze de son nom d'écrivain a commencé son livre mentalement aux portes des magasins avec son oreillette pour communiquer avec les autres vigiles, eux aussi tous africains, tous des debout payés. Gauze, Armand Patrick Baka Bredé de votre vrai nom. Bonjour Gauze.
Bien prononcé le Baka Bredé.
Vous publiez Debout payé, donc au lendemain de la victoire de la Côte d'Ivoire, moi je dirais plutôt debout bravo.
Bravo, et je suis copa.
Sylvain Patieu, vous êtes également dans le studio des 7 milliards de voisins. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignant, vous, et écrivain également. Vous avez passé des mois dans un salon de coiffure afro du quartier Château d'Eau à Paris avec les tresseuses africaines et les manucures chinoises pour terminer avec un récit beauté parade. C'est un salon particulier puisque ses salariés sont sans papier et sont en grève. On en parlera avec vous. Faut-il avoir les yeux bridés pour savoir polir les ongles? Faut-il être noir pour détecter les voleurs de parfums sur les Champs-Élysées? Que racontent ces métiers et ceux qui les exercent sur une société dite de service, mais plutôt mésestimée? Que faut-il comprendre aussi de ces véritables filières géographiques qui mènent à l'emploi? On en discutera également avec la sociologue de l'immigration Catherine Vitol de Venden, qui sera au téléphone avec nous. Et bien sûr, les voisins, quant à vous, vous pouvez questionner nos invités, réagir en direct, surtout si vous exercez vous aussi dans votre pays l'une de ces professions. Et puis en fin d'émission, on aura un reportage sur celle que l'on appelle communément Dame Pipi, et qui parfois réfute d'ailleurs ce surnom. Elles sont Dame Pipi dans les gares françaises à l'issue d'une grève pour préserver leur emploi bien peu considéré. Alice Milo est allée les considérer et justement les écouter. Je vous redonne le numéro de téléphone du standard 33 1 84 22 71 71.
Bonjour madame, veuillez présenter votre badge s'il vous plaît.
Moi je suis de Côte d'Ivoire, agent de sécurité.
Je suis agent de sécurité, je viens du Congo.
Je suis Drodi Avar, je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Initialement, il n'y avait pas vraiment une forte organisation dans le métier. C'était ouvert à tous, pas besoin de formation, ni de diplôme, ni de qualification particulière. Tout venant pouvait l'exercer, d'où la forte population étrangère et immigrée. Jusqu'à ce qu'en 2008, il y ait une loi, un décret d'État qui décide de professionnaliser le métier et qui met des règles strictes en place qui ont fait que le métier s'est beaucoup professionnalisé.
Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été victime du préjugé assez simpliste, il est noir, il est costaud, donc il est vigile?
C'est clair que si à la base c'est ce type de profil qui était demandé, il y a eu un fort taux de recrutement dans ce sens. Donc oui, les gens sont partis tout de suite sur les raccourcis, quoi. Noir et costaud, bagarreur, donc bon pour la sécurité.
Maintenant, de plus en plus de Français s'orientent vers la sécurité. Avant, ce n'était pas le cas. Maintenant, on commence à avoir une autre idée de l'agent de sécurité. Voilà, c'est des diplômes, ce n'est pas des gens qui sont venus comme ça, sans rien. Voilà.
Comment vous êtes devenu vigile? Est-ce que ça fait longtemps que vous occupez ce poste d'agent de sécurité?
Ça fait depuis l'an 2001 que j'ai commencé le travail de sécurité.
Comment vous êtes arrivé ici?
Moi, vraiment, le travail de sécurité, c'est ma passion. Comme chez moi au pays, au Congo, j'avais raté de faire la police et ici, je profitais. C'est ma passion, faire la sécurité.
Et si vous deviez donner un point positif, ce serait quoi?
Protéger les gens, c'est positif. Hein.
Propos recueillis par Sarah Souel. Gauze, vous avez le droit de réagir. Vous
non, mais été vigile. Ça me fait rire d'entendre celui qui aime la sécurité et qui pense qu'il protège les gens parce qu'il est vigile.
C'est son droit. Il y a des gens qui estiment leur métier tout à fait utile.
C'est très drôle.
Honorable.
Parce que Ouais, bah, bien sûr, mais c'est très drôle quand même de se dire qu'en tant que vigile, tu te sens de protéger les gens. C'est pas du tout la mission du vigile, en fait. Je dis souvent que vigile est au métier de la sécurité, parce que la vache qui rit est au fromage. Donc voilà, c'est pas, non, tu as très peu de prérogatives en tant que vigile. Vigile, c'est délateur. Vigile, c'est.
Parce que vous avez été vigile dans des magasins. C'est pas la même chose que, au pied des tours de bureaux, par exemple.
Il y a plusieurs métiers de vigile.
C'est pour ça que vous dites délateur, hein, parce que vous étiez là pour dénoncer les voleurs, les faucheurs.
Tu peux pas faire grand chose que dénoncer. De toute façon, tu peux toucher personne. Voilà, tu es juste là pour dire aux voleurs, j'appelle la police.
Mmh, voilà. Ouais. Depuis 2008, ceci dit, il existe un certificat de qualification professionnelle obligatoire, hein, pour exercer. D'ailleurs, ça donne une de vos très bonnes pages dans le livre. Il y en a beaucoup de bonnes pages dans votre livre « Debout payé ». Mais vous dites qu'effectivement, bon, il y a ce fameux certificat, un diplôme pour gagner le droit de rester debout 12 heures payé au SMIC horaire dans un Franprix ou un aide miteux de banlieue, avec pour mission d'empêcher les enfants de chaparder des canettes de coca. En réalité, la dite formation consiste à connaître l'article 53-73 du Code de procédure pénale. Comme dans toutes les proses juridiques, vous écrivez que les phrases sont complexes, grandiloquentes, pour ne dire au final que des choses très simples. Le 53-73 parle des flagrants délits et dit à peu près que lorsqu'on surprend quelqu'un en train de voler, on peut le traiter de voleur et lui courir après. Oui, citoyen, selon la loi, nous sommes tous des vigiles.
Voilà, ça résume bien ma pensée. Mmh. Mais vraiment vigile dans ce terme-là. Après, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, il y a beaucoup de paliers maintenant dans ce métier-là, notamment la sécurité incendie, mais c'est plus tout à fait pareil, en fait. Ils disent sécurité, mais voilà, c'est autre chose. Mais vigile, vraiment, c'est très particulier pour moi. C'est très, très bien ciblé. Tu es là à regarder, empêcher les gens de voler, quoi.
Mmh. Ouais. Vous êtes arrivé, vous étiez étudiant en Côte d'Ivoire.
Tout à fait,
diplômé,
en France,
ouais. En Côte d'Ivoire et en France. Comment vous avez atterri dans le métier de vigile?
Ben, par réseautage, c'est évident. Beaucoup de métiers s'ethnisent comme ça, par réseautage. Ça veut dire que tu travailles parce que tu as quelqu'un que tu connais qui travaille dans les parages, quoi. Mmh. Donc, par exemple, pour le chinois, dans la restauration, souvent les Maliens sur la voirie, par exemple, et les Ivoiriens, il y a pas mal d'Ivoiriens qui, dans les années 90, avaient des sociétés de sécurité, comme ça, qui avaient des contrats, comme des petits contrats à l'époque, et qui employaient leurs compatriotes, parce que c'est beaucoup plus simple.
Mmh. Mais alors, c'est dû au hasard du recrutement, au réseautage, comme vous dites, ou aussi au stéréotype, parce que vous posez la question dès les premières pages du livre, finalement.
Les stéréotypes.
Noir et vigile, ça va bien ensemble, c'est la question que vous posez.
Alors. Je vais développer un peu plus tard, mais les stéréotypes commencent avant la notion de vigile. En fait, qu'est-ce qui fait que on dit que, quand je dis que le vigile est noir, qu'est-ce qui fait que le vigile est noir? C'est au nom de vieux clichés, puisque à la base le métier c'est de faire peur. Empêcher les gens, c'est faire peur. Qu'est-ce que tu vas prendre pour faire peur? Ah, mais tiens, la couleur, ça peut faire peur. La couleur de quelqu'un peut faire peur. La vieille image atavique du bon sauvage africain, machin, qui peut même te manger. Voilà. Il y a quelque chose qui obéit à ça. Mais pour la première fois, tout le monde est content du stéréotype.
C'est ça, c'est pas seulement la carrure. Ouais. Bon, a priori, on peut imaginer qu'un vigile doit avoir une bonne forme physique, au métier, ça.
On peut imaginer ça.
Là, pour le coup,
il n'y
a pas de stéréotype.
Mais c'est pas la carrure, puisque de toute façon, tu peux pas intervenir physiquement. T'as pas besoin d'intervenir, tu n'as même pas le droit de le faire. Donc, au fond, ce n'est pas la carrure, le reste, la carrure, c'est une légende. Mais je vais venir sur le développement, comment ça évolue après. Parce que la carrure, c'est venu bien après, en fait. La carrure, ça apporte quelque chose de joli, d'esthétique, en fait, dans le métier de vigile. Mais là, tu es bien plus qu'un simple vigile. C'est une autre histoire du capitalisme que je vais développer assez rapidement. Prenons un magasin comme Camailleux, n'importe où à Bastille, machin. Le vigile qui est planté là, il touche environ le SMIC, donc on va dire 1200 euros. La société qui l'emploie touche trois fois plus. Donc on va autour de 5000 euros finalement. Et aucune voleuse ou aucun voleur n'a le talent pour voler pour 5000 euros de robe à 15 euros. Donc le vigile, en fait, il donne un autre message en plus de la délation.
Vous voulez dire qu'économiquement, il n'est pas utile au magasin?
En principe, c'est pas utile. En principe, il n'est pas utile. Mais en fait, en réalité, il est très utile parce qu'il il profite, en fait, il incarne le discours du standing du magasin. C'est-à-dire que le grand noir baraqué avec la belle oreillette et son costume cravate et son costume cravate noir, sa belle chemise blanche, il est obligé d'être toujours bien rasé, bien propre. Il participe du standing du magasin, en fait, en réalité. Donc il est
un simple instrument de marketing.
Voilà. À son insu, d'ailleurs, la plupart du temps, à son insu. Il est aussi un instrument de marketing.
Pourquoi vous avez eu envie d'écrire Debout payé, de raconter ces coulisses-là de ces hommes, et en général, oui, que des hommes, que l'on n'entend jamais, avec qui les clients discutent très rarement. C'est vraiment la personne dans le magasin qui n'a pas de relation avec les clients.
J'ai l'habitude de raconter des histoires et j'aime bien, c'est un sport national en Côte d'Ivoire de raconter les histoires. En parenthèse, je répète encore, je suis copain. Et l'idée de raconter des histoires, c'est quelque chose de fascinant, d'intéressant, de raconter même des petites histoires. Donc moi, au départ, la dernière fois que j'ai fait Vigile, en réalité, j'ai vu combien étaient absurdes les situations que je voyais. Je me suis dit, c'est pas possible de ne pas raconter ça. Je voulais pas, au départ, forcément faire un bouquin. Mais j'ai tout de suite pris des notes, en fait, pour pouvoir témoigner de toutes ces
histoires. Prendre des notes en étant vigile, parce que c'est vraiment, quand on vous lit, on a vraiment l'impression que vous décrivez en direct tout ce qui se passe dans une journée. Vous êtes autorisé à avoir un carnet, à prendre des notes?
Non, pas du tout. Mais j'ai monté un dispositif. Ça permet aussi de raconter des histoires. C'est-à-dire que la position du vigile, c'est celui qui regarde sans être vu. C'est idéal pour raconter des histoires. Et donc je disais en prenant des notes que vous savez, j'ai une très grande expérience de vigile, donc c'est une tactique pour pouvoir attraper les voleurs. Ne vous inquiétez pas, je regarde tout, alors que c'était totalement faux. Parce que c'est comme je dis souvent, il suffit juste d'une simple présence négrière pour être vigile.
Sylvain Patieu, concernant les manucures chinoises que vous avez observées avec également d'ailleurs les coiffeuses afro, où là on peut imaginer qu'il y a un lien culturel entre l'origine, en tout cas culturelle, des coiffeuses et la dextérité nécessaire à manier les cheveux crépus, à tresser, etc. Un métier très technique. Mais pour les manucures chinoises, pourquoi sont-elles chinoises?
Il y a aussi un certain nombre de clichés, l'idée qu'elles sont chinoises, donc elles vont être minutieuses, elles ont des petites mains, elles sont capables de faire du travail de précision.
On est largement dans le stéréotype aussi.
Bien sûr, on est dans le stéréotype, et puis on est aussi dans les raisons sociales, c'est-à-dire que les personnes qui deviennent vigiles acceptent aussi ces métiers-là, parce que quand on est noir en France et qu'on n'a pas de diplôme, il n'y a pas forcément énormément de possibilités. Et là, ces femmes-là, elles sont sans papier, donc elles sont aussi très exploitées. Et le fait de travailler comme manucure, c'est des femmes qui arrivent souvent en France comme nounous dans des familles chinoises. Donc être nounou dans une famille chinoise, ça veut dire passer 24 heures sur 24 dans un appartement à surveiller des enfants. Et donc paradoxalement, devenir manucure, c'est une forme d'émancipation, même si c'est quand même de l'exploitation, mais c'est quand même une manière de sortir de l'appartement et d'avoir un métier dans lequel on voit des gens, dans lequel on rencontre d'autres personnes.
Des horaires moins difficiles. Debout payé, on n'a pas encore expliqué, pour ceux qui ne pratiquent pas le nouchi, Gauze, ça veut dire?
C'est un métier, être debout toute la journée.
C'est la langue d'Abidjan.
Ouais,
hein.
Voilà, être debout toute la journée devant le magasin et attendre patiemment la fin du mois pour être payé.
Voilà, dans quelques instants.
Je me demandais, parce que on parle des clients, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un rapport avec les salariés? Est-ce que le vigile, il n'est pas là aussi pour surveiller ses collègues?
Ouais, ça fait partie du truc, parce que en réalité, il y a quelque chose de vain dedans. En réalité, les plus grands voleurs, ce sont les patrons, d'ailleurs. Il y a de ça. Mais le vigile sert à ça aussi, à surveiller les employés et aussi les clients.
Ouais. Bon, vous réagissez bien évidemment en direct sur les réseaux sociaux et vous pouvez nous appeler au 33 84 22 71 71.
L'argent a bien souvent flingué une amitié. Les vrais amis sont des anges qui nous soulèvent quand on n'arrive plus à barber. N'oublie jamais un mec dans la ruine, car c'est souvent le chemin vers le cœur de la ville. Si t'as pas capté, t'es trop bourré. Glisse sous mon suite, 5000 euros pour foutre le feu. J'fais de la magie dans mon hood marabout. Saut périlleux, une queue interminable. On se mate, on se crève les yeux. Un niax, un doliprane, peut-être qu'un jour ça ira mieux. Unifie tes forces, ainsi donne un sens à ta vie. Les épreuves bientôt rides, j'ai compte par centaines. Fou rire, la mélancolie c'est un luxe. L'esprit et le cœur font les fêtes par en riche. Si j'avais pas fait le con, tu serais sa bitch. Le bonheur t'es sur un trône quand t'écris la donne à deux. La mort c'est juste une étape, pénible sont les adieux. Psycho face à l'amour, c'est bien pire qu'un coup de feu. J'suis là, ma force est d'attendre, j'vais prendre un coup de vieux.
Illimité, pas le choix.
Illimité.
T'as le crédit
illimité.
Comme le son
illimité.
T'as qu'une vie
illimité.
T'as le choix
illimité.
T'as le crédit
illimité.
Comme le son
illimité.
T'as qu'une vie
illimité.
T'as le choix
illimité.
T'as le crédit
illimité.
Comme le son
illimité.
T'as qu'une vie
illimité.
T'as le choix
illimité.
T'as le crédit
illimité.
Comme le son
illimité.
T'as qu'une vie.
Illimité, c'est Carlito. Chez 7 milliards de voisins, nous parlons de la vie intérieure des vigiles, de longues heures passées à surveiller, en tout cas pour ce qui était de votre emploi, Gauze, que vous avez raconté dans Debout Payé. Vous avez été essentiellement, vous, vigile dans des magasins, aussi bien sur les Champs-Élysées que ailleurs. Debout Payé, donc, on le disait, c'est du nouchi, c'est la langue d'Abidjan, qui définit celui qui passe jusqu'à 12 heures de station debout.
Ouais, tout à fait. Ouais. T'as pas le droit de faire autre chose que d'être debout. Hein.
Un zagoli, alors, qu'est-ce que c'est?
C'est un gardien, c'est un vigile aussi, en fait. À la base, je suis copain. Hein. à la base, Zagoli Golier, c'était l'ancien gardien de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire dans les années 80. Donc voilà, on compare un peu le vigile à un gardien au foot. Tu regardes les autres jouer, en réalité. De temps en temps, tu plonges pour arrêter le ballon. Comme Copa.
Et un soufé ouro?
C'est du mandin, c'est du djoula, on va dire. Soufé ouro, ça veut dire le chien du soir. Pareil aussi, vigile, c'est une image.
Avec un chien? Non,
voilà, qui, pour le coup, c'est les maîtres chiens, quoi.
Ouais. Il y a des castes, justement, des hiérarchies dans les métiers de la sécurité.
Ben oui. Le maître chien, il gagne beaucoup plus que, par exemple, le simple ADS, agent de sécurité. Après, il y a ce qu'on dit, le sécurité incendie dans le milieu. Il va en dire, moi, je suis sécurité incendie.
Ça veut dire autre chose. Plus de formation
un
aussi.
Un peu plus de formation, pompier, ou bien IGH, ceux qui s'occupent des immeubles de grande hauteur, de plus de 10 étages et tout ça. Donc, effectivement, il y a des stades d'évolution. Mais moi, je veux bien revenir sur la formation.
Mais vous menez l'émission, on l'a compris, Gauze. Hein, vous êtes chez vous. Allez-y.
Alors, on dit que ce sont des métiers qui sont réservés à des gens qui n'ont pas de formation. En France, c'est pas compliqué. Quand t'as pas de formation, tu peux faire vigile, par exemple. Hélas, en fait, le système social ici est suffisamment pervers, en fait, pour permettre ça, parce que il y a plein de gens qui sont formés, en fait. Ils n'ont juste pas le choix de faire autre chose. Pour la plupart du temps, d'ailleurs moi, là, j'en suis bien la preuve vivante.
Il y avait d'autres vigiles étudiants comme vous?
Ah oui, bien des étudiants, des gens qui ont travaillé ailleurs, en Côte d'Ivoire. Par exemple, je travaillais avec un vigile camerounais qui avait fait la fac à Los Angeles, avec un Sénégalais qui avait bossé 10 ans dans la logistique au port de Dakar, par exemple. Voilà, c'est le système social d'intégration des étrangers en France qui est un peu pervers, qui fait que tout le monde se prive justement de gens assez intéressants. Ce logisticien, il aurait pu faire autre chose que vigile.
Mais ça peut être aussi des métiers momentanés, non? Vous avez exercé combien d'années en tant que vigile? Vous avez exercé tellement de métiers qu'on s'y perd d'ailleurs dans votre curriculum vitae.
Non, mais c'est pas une question d'années. Je faisais genre des vacations, des rentes de 3-4 mois. C'était un métier de soudure entre deux périodes difficiles, on va dire, ou deux périodes fastes. Ça dépend de quel côté on se met.
Ouais.
Donc voilà, en fait, moi, je milite pour que la France reconnaisse, même quand t'as des papiers, quoi, je milite pour que la France reconnaisse le passé des gens qui viennent ici. Quel que soit ce que tu as fait, dès que tu arrives en France, dans le meilleur des cas, tu as des papiers, on oublie, on efface ton passé. Donc les gens, ils vont au plus pressé, puisqu'ils sont censés être vierges, neufs dans la société. C'est dommage, tout le monde se passe de compétences de tout le monde. C'est vraiment dommage, ça. Voilà.
Pour les manucures chinoises, pour les coiffeuses afro, ce sont au contraire là, des filles qui exercent ce métier-là à temps plein. Hein.
Oui, mais c'est aussi intéressant de voir que, par exemple, pour les Chinoises, c'est des femmes qui sont venues, qui avaient d'autres métiers au départ, qui étaient, il y en avait qui
travaillaient dans la comptabilité,
voilà,
notamment,
une qui était comptable,
hein.
Une qui était ouvrière, une qui était chauffeur de bus. Et en fait, bon là, on a la situation en France et la mondialisation, tout ça qui se percute, puisque ces femmes sont venues en France parce qu'il y a eu des privatisations en Chine dans les années 90. Elles avaient des emplois qui étaient un peu protégés et qu'elles ont perdu, une pauvreté qui a augmenté. Et donc, on les envoie en France pour envoyer de l'argent à toute la famille.
On va y revenir. Hein. Vous avez publié, vous, de votre côté, Sylvain Pathieu, Parade Beauté. Gauze, Sylvain Pathieu, la vraie vie des vigiles, coiffeuses, manucures, des métiers du quotidien exercés dans une relative indifférence qui ont beaucoup de choses à nous apprendre. Et vous pouvez bien sûr intervenir en direct dans l'émission dans la deuxième partie, juste après le flash, au 33 1 84 22 71 71. Retour dans 3 minutes. Restez avec nous.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins sur RFI. Aujourd'hui, nous nous intéressons à des métiers qui d'ordinaire donnent rarement le lieu à des livres. Hein. Vigiles, coiffeuses afro ou manucures chinoises, des métiers en vitrine et qui pourtant ont rarement la parole. Gauze, vous êtes l'auteur de Debout payé aux éditions Le Nouvel Attila. Et Sylvain Pathieu, vous publiez auteur, vous êtes l'auteur de Beauté Parade aux éditions Plein Jour. Et vous pouvez bien sûr nous appeler au 33 1 84 22 61. 71. Nous sommes en ligne avec Catherine Vitol-de-Venden, sociologue de l'immigration, directrice de recherche au CNRS. Bonjour Catherine Vitol-de-Venden.
Bonjour, je suis pas sociologue.
Politologue, vous avez raison, vous êtes politiste même. Vos travaux sur l'immigration donnent lieu à cette assimilation par rapport à la sociologie. Je souhaitais vous poser la question, est-ce que... il y a des filières d'emploi organisées en fonction des origines géographiques des migrants.
Oui, enfin, est-ce que c'est organisé ? C'est plutôt les migrants eux-mêmes qui s'auto-organisent, si j'ose dire, pour se mettre sur des créneaux précis. Puis aussi, parfois, dans la tête des employeurs, il y a l'idée que pour tel ou tel métier, c'est plutôt telle nationalité qui va remplir le job, si j'ose dire. Donc, il y a un peu des habitudes culturelles, si j'ose dire, des deux côtés, d'ailleurs, qui conduisent à cette ethnicisation des métiers, effectivement, à la fois qualifiés et non qualifiés.
Ça a toujours été le cas, historiquement ?
Toujours été le cas, oui. On avait même en France, à l'intérieur de la France, on a eu des ramoneurs savoyards, par exemple. On avait les gens qui faisaient le limousinage, qui étaient plutôt des maçons qui venaient du Limousin. On avait des marchands d'oignons bretons qui allaient travailler en Angleterre, etc. Donc il y a eu toujours des habitudes comme ça. Je ne sais pas si c'est ethnique, culturel, géographique, mais enfin des niches qui ont fait que certains métiers se sont tournés vers leurs compatriotes, parce que aussi c'est des phénomènes d'auto-recrutement par les migrants eux-mêmes, mais aussi les employeurs qui demandent d'aller chercher des gens parmi ceux qu'ils emploient dans leur propre pays.
Parce que finalement, cette ethnicisation des métiers donnait l'impression aux employeurs que c'était aussi une forme de valorisation, qu'il y avait un savoir-faire qui s'était monté de toutes pièces par cette filière.
Ben, je sais pas si ça peut être un savoir-faire, mais pas nécessairement. Beaucoup occupent d'autres métiers. Par exemple, les tailleurs qu'on disait d'Europe de l'Est n'étaient pas nécessairement tailleurs dans leur pays, mais ils avaient trouvé une niche. Et puis, progressivement, entre eux, ils avaient créé un savoir-faire et puis ils se renvoyaient les clients, etc. On a ça aussi pour les concierges portugais à Paris. Beaucoup de Portugais sont concierges parce que... En fait, ils s'auto-recommandent, si j'ose dire, les uns les autres. Moi, ils font pas ces métiers-là dans leur pays. Ils viennent souvent de régions rurales où il n'y a pas du tout de concierge dans les immeubles. Donc, en fait, c'est des habitudes culturelles qui se sont créées. Et puis, finalement, ceux qui les emploient ont l'habitude de traiter avec eux pour tel type de métier. Donc, il y a une sorte de spécialisation, de profilage, comme ça, qui se fait. Et c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'avoir certaines nationalités dans certains métier, et à l'inverse, pour d'autres métiers, on se dira, ça c'est un tel qui est tel, en désignant telle nationalité, qui va faire ce travail. Donc il y a comme ça des.
Mais
des
la France n'est pas un cas isolé d'ailleurs à procéder de cette façon-là.
Par exemple, en Italie, beaucoup de personnes qui gardent les gens âgés, c'est des femmes roumaines, Alors parfois ça dépend aussi, ou polonaises, ou philippines. En France, ce sera d'autres nationalités. Pour des raisons, par exemple, de langue. Il y a des métiers pour lesquels on cherche des gens qui parlent la langue. Donc, en France, on aura plutôt des femmes francophones pour garder les gens âgés parce qu'ils ne parlent pas d'autre langue que le français. De même, dans les hôpitaux, on cherche plutôt des médecins francophones parce que il faut pouvoir parler avec le patient. Donc, là aussi, il y a des profilages qui se font pour des raisons linguistiques.
Est-ce que c'est une bonne chose ou pas pour l'immigration ?
Oui et non, ça peut être une bonne chose parce que disons qu'il y a une sorte de confiance qui se fait à l'égard de cette ethnicisation du marché du travail, mais en même temps, quelqu'un qui serait par exemple plus qualifié que dans le métier pour lequel on l'attend aurait du mal parfois à se présenter comme tel parce qu'on est habitué, je vous donne un exemple, des Pakistanais qu'on voit souvent tenir des boutiques d'alimentation ou de tissus, si le Pakistanais en question il se présente comme ingénieur en informatique, les gens vont se dire, on n'est pas habitué à aller voir dans ce métier-là.
Ce sont des stéréotypes enfermants, finalement, parfois.
Les qui, en France, sont beaucoup sur les marchés, qui, souvent, dans leur métier, sont beaucoup plus, dans leur pays, sont beaucoup plus qualifiés dans leurs activités, s'ils se présentent dans un autre métier, certains vont dire, on ne vous pensait pas pouvoir faire ce métier-là, vous voyez. Ça peut créer aussi des stéréotypes et donc des discriminations.
Merci beaucoup, Catherine Vitol de Venden, politologue, sociologue de l'immigration. Gauze, c'est ce que vous nous disiez avant le flash, finalement. Vous vous êtes senti, avec d'autres collègues vigiles, enfermé dans ce stéréotype de l'Africain, parfait pour être vigile, grand, costaud, etc.
Pas
alors que vous étiez étudiant et que vous avez un vrai talent d'écrivain. D'ailleurs, il suffit de vous lire. Debout payé, c'est le titre de votre livre qui raconte cette réalité des vigiles. Mais ceci dit, sur le continent africain aussi, il y a toujours eu historiquement une ethnicisation des métiers, une division, en tout cas, une certaine division ethnique des métiers dans la tradition.
Oui, évidemment, c'est comme partout. La problématique est la même. En Côte d'Ivoire, mes parents, ils parlaient des maçons dahoméens. Alors que ils n'avaient pas un talent particulier pour être maçon.
Il y a une caste des forgerons,
les forgerons, les griots. Enfin, c'est quand c'est aussi traditionnel, c'est structurant et structuré aussi. C'est la différence, elle est là. Les castes de forgerons ou bien de griots, c'est quand même ça. Tu obéis en fait. Tu es dans un système social un peu plus complexe qui fait que tu es là-bas. C'est pas juste une destinée, un arrangement comme ça aléatoire. Quoi.
Alors on a des auditeurs qui souhaiteraient dialoguer avec vous au 33 84 22 71 71. C'est le cas de Jean qui est vigile dans son pays à Cotonou, au Bénin. Bonjour Jean.
Oui, bonjour Emmanuel, bonjour à Copa.
Copa te salue.
Jean, vous avez 27 ans, vous êtes vigile dans un centre de santé. Vous avez dit au Standard que vous aviez le sentiment que votre métier était fort mal considéré au Bénin.
Oui, effectivement, Emmanuel, c'est à peu près comme l'a dit votre invité tout à l'heure. Lui, au moins, en France, ils ont le temps de suivre une petite formation, mais ici, c'est pas ça du tout. Alors, quel que soit votre diplôme, vous êtes table rase, vous êtes dans la conscience de tout le monde. Agent de sécurité, c'est l'équivalent d'un raté, quoi. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas fait d'école, qui n'a pas évolué, qui n'a pratiquement rien fait.
Votre cas, Jean, parce que vous avez fait des études.
Oui, effectivement. J'ai commencé la sécurité en étant étudiant, il y a 4 ans. Je suis dans ma 4e année. Et quelques années après, je suis encore dedans, quoi.
Et vous êtes toujours étudiant en même temps ou pas?
Non. Là, j'ai fini l'année passée. J'ai terminé, j'ai soutenu l'année passée et j'ai ma maîtrise là maintenant. Mais bon, là, je suis toujours dans la sécurité parce que j'ai pas trouvé mieux, quoi.
Ouais. Vous avez une maîtrise de quoi, Jean?
Oh, là, j'ai fait l'histoire archéologie.
Archéologie.
Oui, l'histoire archéologie.
Ouais. Et alors, comment vous voyez votre avenir, du coup, Jean?
Waouh. C'est une question assez complexe. Bon, je ne sais pas trop. Vu les conditions dans lesquelles nous vivons aujourd'hui, sincèrement, elle est assez sombre. L'avenir est assez sombre là. Il n'y a pas de bout du tunnel, quoi. On voit pratiquement rien.
Oui, votre récit est le récit d'un étudiant déclassé. Ceci dit, vous avez tout de même un véritable emploi. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que les vigiles soient davantage considérés, à votre avis?
Bon, d'abord, il faudrait que le regard de monsieur tout le monde change vis-à-vis de nous. Parce que notre métier, pour ce que nous faisons, nous avons beaucoup, beaucoup, beaucoup de responsabilités. Nous assurons la sécurité à certains endroits, sur certains sites un peu délicats. Exemple, là où je suis, là maintenant, au centre de santé, nous subissons pratiquement tout, quoi. C'est-à-dire de la part des patients et de leurs accompagnants. C'est pas toujours facile, il faudrait que le regard change.
Ouais, c'est ça, vous épongez les énervements d'une société qui ne fonctionne pas suffisamment bien, notamment quand on n'a pas suffisamment accès à la santé, par exemple. Merci Jean pour ce témoignage. Vous pouvez nous appeler au 33 1 84 22 71 71. Un mot de commentaire, Gauze, de Cotonou au Paris.
Non, mais le métier des vigiles en Afrique, il est vraiment différent de celui de France, parce que ça craint un peu plus d'être vigile en Afrique. En fait, tu sers beaucoup plus de fusibles qu'ici. Alors qu'ici, il t'arrive rarement des choses.
Fusible à tension sociale, ouais, c'est
voilà,
ça.
Exactement. C'est même au bord de la milice, même presque au bord de la milice à la limite. C'est vraiment autre chose. Puis voilà, le taux de chômage est tellement élevé là-bas que tout le monde saute n'importe quel métier, quoi. N'importe qui saute n'importe quel métier, quoi. Ça, il y a de ça en tout cas en Afrique. C'est vraiment très différent.
Sylvain Patieu, alors vous êtes historien, vous enseignez à l'université et vous avez décidé de passer plusieurs mois, je ne sais pas s'il faut dire à vos heures perdues, plutôt à vos heures gagnées, pour écrire Beauté Parade. C'est-à-dire que vous êtes venu observer et vous asseoir dans un certain salon de coiffure dans le quartier de Château d'Eau. Pas n'importe quel salon de coiffure et de manucure, hein. Un salon qui était en contestation sociale, en grève et occupé.
Voilà, le patron est parti avec la caisse, il a payé.
Patron plus... ivoirien, d'ailleurs.
Patron ivoirien, hein, il est parti à... La légende dit qu'il est parti à Abidjan. Je sais pas s'il était copa, lui.
Mais... Ah, à mon avis, il était copa.
Il était copa aussi. Mais, en tout cas, il est parti avec la caisse et il payait plus ses salariés depuis 2 mois. Donc, au rez-de-chaussée, les Chinoises qui faisaient la manucure. Au premier étage, des femmes d'Afrique de l'Ouest qui faisaient la coiffure. Et donc, elles se sont posées la question de savoir ce qu'elles faisaient. Est-ce que c'était des... presque toutes des sans-papiers. Qu'est-ce qu'elles faisaient? Est-ce qu'elles lâchaient l'affaire et qu'elles allaient travailler ailleurs?
Au départ, elles veulent juste récupérer leur argent, c'est ce que le patron leur doit. Hein.
Voilà,
et puis ensuite...
Et puis en fait, elles ont décidé de se battre pour leurs papiers, donc de se battre aussi pour leur dignité. C'est-à-dire que c'est une manière de sortir de l'ombre. Parce que quand on est dans ces salons, on reste dans la clandestinité. C'est des femmes. Les femmes risquent moins d'être contrôlées pour leurs papiers en France que des hommes. Donc elles peuvent rester de nombreuses années comme ça dans un monde parallèle, quoi. Et en fait, elles ont décidé de casser l'hypocrisie et de dire voilà, il y a une zone de non-droit en plein Paris. On parle souvent des zones de non-droit dans les banlieues, etc. Là, c'est une zone de non-droit.
Qui n'afflige pas les clients, d'ailleurs, hein, qui sont d'ailleurs eux-mêmes issus de l'immigration, qui savent très bien qu'en payant une manucure à un tel prix très bas ou une coiffure, je veux dire, un tressage à des prix extrêmement bas, ils savent très bien que ces personnes-là sont exploitées.
Ils savent ou ils savent pas. Des fois, ils y pensent pas trop, mais en tout cas, ils vont là où c'est pas cher et là où ils peuvent. Chez les clients aussi, il y a une quête de dignité. C'est-à-dire, l'idée de la beauté, c'est pour tout le monde. C'est pas que pour les riches. Ouais. Donc ils veulent avoir droit à des ongles manicurés et puis à des brésiliennes sur les cheveux. Donc du coup voilà, il y a cet aspect là qui compte. Et en fait ces femmes, elles ont été très courageuses parce que elles ont décidé d'affirmer leur dignité, d'affirmer leurs droits et de dire c'est pas parce qu'on est sans papier qu'on n'a pas des droits en tant que salarié, et on a des droits. Et en se battant pour leurs droits, en fait, elles se battent pour les droits de tout le monde, elles se battent aussi pour les droits des Français. Et d'ailleurs, il y a des syndicalistes français,
la CGT, qui sont contactés par une des manucures chinoises,
c'est ça, qui sont venus les aider, donc la CGT.
Alors il faut dire que pendant très longtemps, les syndicats sont absolument pas occupés des emplois précaires occupés par des immigrés, hein. C'est quand même assez récent,
oui,
ça.
C'est vrai, mais en même temps, les emplois précaires occupés par des immigrés ou pas, ça devient une norme, en fait, malheureusement. Et donc le combat qu'elles ont mené, ces femmes, c'est un combat qui concerne aussi des salariés français.
Aujourd'hui, où en sont-elles? La boutique est toujours occupée, parce qu'il y avait un relais de femmes qui se reliaient pour dormir, donc pour occuper vraiment la boutique jour et nuit.
C'est ça, ouais.
Et alors, la faire fonctionner sans le patron, voilà, reparti en Côte d'Ivoire.
C'est une sorte de LIP à Château d'Eau. Alors, en fait, ces femmes ont obtenu leur papier, donc ça, elles étaient 7, enfin 6 hommes, et 6 femmes et un homme, donc le féminin l'emporte.
LIP a gagné, alors, en fait.
LIP a gagné, voilà, pour une fois. Pas comme dans les années 70. Et donc, elles ont obtenu leur papier au numéro 50 du boulevard de Strasbourg. Et peu de temps après, il y a eu une grève au numéro 57, depuis mai dernier. Et en fait, cette grève, elle est toujours en cours. Là, elles sont plus nombreuses, elles sont 18 en tout. Enfin, je dis encore elles, mais il y a aussi des hommes.
Ça veut dire que ça a essaimé, finalement.
Ça a essaimé, mais voilà, le problème, c'est que le gouvernement ne veut pas donner des papiers à ces hommes et ces femmes.
C'est un conflit qui dérange pas seulement le gouvernement, hein, qui a peur, effectivement, que ça fasse tache d'huile, mais qui dérange également les patrons dans le quartier, les patrons de boutique.
Bah, les patrons, ils sont un peu, excuse-moi l'expression, le cul entre deux chaises, parce que à la fois, il y en a qui sont d'origine étrangère, qui savent ce que c'est d'être sans papier, et voilà, donc forcément, c'est quand même quelque chose qui peut les toucher, et en même temps, c'est aussi des patrons, donc c'est aussi des gens qui sont là pour exploiter leurs salariés, qui profitent largement du système, qui profitent largement que ces hommes et ces femmes soient sans papier pour gagner de l'argent sur leur dos. Et puis, malheureusement, il y a aussi un système qui est assez coercitif, avec de la violence. Il y a eu des menaces de mort contre les salariés, contre leur soutien. Et puis,
leur soutien de la CGT.
Les soutiens de la CGT. Donc, c'est une lutte qui est compliquée, mais qui dure quand même maintenant depuis de nombreux mois. Et voilà, il serait quand même temps que ces femmes aient leur papier. C'est-à-dire qu'elles ont eu le courage de sortir de l'ombre les femmes du 57. Il n'y a pas de raison que si celles du 50 ont eu leur papier, celles du 57 ne l'aient pas.
Qu'est-ce que ce conflit finalement et ces mois d'observation passés à regarder les tressages, la manucture, vous ont finalement appris, vous, Sylvain Patieu, l'historien?
On est dans un microcosme de la mondialisation. Il y a des cheveux qui viennent d'Inde, de femmes qui sont dans des temples et qui font don de leur chevelure, et puis les temples.
Ça, c'est pour ceux qui ont les moyens de se payer des tresses en vrais cheveux, pas synthétiques.
Oui, bien sûr. Mais il y a un business là-dedans. Il y a le business des temples en Inde qui vendent ces cheveux, mais il y a aussi le business des propriétaires qui tiennent les murs de ces magasins, le business des gérants. Il y a plusieurs business qui s'entrechoquent. Et en bas de l'échelle, il y a ces salariés sans papier qui sont un peu les victimes de ce système. Et c'est vrai que quand on est blanc avec les cheveux raides comme moi et qu'on n'a pas de raison particulière d'entrer dans des salons comme ça. Donc j'ai un peu découvert un monde que je ne connaissais pas.
Gauze.
Dans ce salon-là, quand même, le règne la norme imposée de beauté occidentale, même chez les Noirs. Donc toutes ces Africaines qui rêvent d'avoir la chevelure de Beyoncé ou de je sais pas qui.
Lycée, bon, il y a aussi des tressages.
Ouais, oui, il y a aussi le tressage.
Mais la plupart du
quand
temps...
Quand vous y allez, Gauze, là.
Donc... On va prier pour que ça fasse tache d'huile et que la révolution prenne tout le boulevard jusqu'à la gare de l'Est.
C'est une journée révolutionnaire.
Mais d'ailleurs, il y a la fille de Malcolm X qui vient leur rendre visite mercredi au 57 boulevard de Strasbourg. Donc c'est quand même intéressant, je trouve.
On va inviter Copa Barry aussi pour qu'il aille les soutenir.
Copa Barry, il faudrait qu'il fasse.
Vous restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission, Gauze et Sylvain Patieu. Vous connaissez le métier de dame pipi?
Oui.
Tous les deux. Chargé de la propreté des toilettes publiques. Un métier d'ailleurs qui a tendance à disparaître, dans les villes dites modernes où c'est davantage mécanisé. Un reportage dans quelques instants sur le mouvement de grève des dames pipi dans plusieurs gares SNCF à Paris. I Need a Dollar, Aloe Black, chez 7 milliards de voisins sur RFI. Reportage d'Alice Milo. Maintenant, les dames pipi ont gagné, enfin pas seulement quelques euros dans l'assiette, à côté des lavabos. Après 9 jours de grève, les salariés des toilettes publiques de 6 gares françaises ont réussi à sauvegarder leur emploi. Un bras de fer qui avait commencé mi-janvier quand le nouveau prestataire de la SNCF, Toutelou, avait annoncé ne pas reprendre ses agents d'entretien, dont certaines ont plus de 30 ans d'ancienneté. Trop cher, les dames pipi. Elles sont une quarantaine à avoir décidé d'occuper les lieux pour défendre leurs emplois. Alice Milo les a rencontrées, gare Saint-Lazare et gare d'Austerlitz, au cœur de la capitale française.
Je suis une femme, je viens chez les hommes, mais c'est un peu gênant. Mais ça va. Oh, avec 17 ans de travail, je suis habituée. Hein.
Et vous dites que c'est gênant parce qu'ici, c'est des urinoirs. Hein, chez
des urinoirs. Moi, j'ai fait mon ménage, mais je ne regarde pas les hommes. Hein. Je suis habituée.
Et alors, racontez-moi, vous avez fait grève, c'est ça, il y a quelques semaines?
Oui, nous avons fait grève. Le nouveau patron ne voulait pas nous prendre avec l'ancienneté. C'est pour ça qu'on a fait la grève. J'ai eu peur et j'étais en colère aussi. Je suis toute seule à supporter mes défis.
Vous êtes mère célibataire alors?
Mère célibataire, j'ai été divorcée. On s'est dit entre les collègues, on va se réunir pour faire la grève. Sinon, personne ne va nous écouter. On a gardé les clés. On a dit, on ferme. On a occupé les lieux à Saint-Lazare. On a fermé les toilettes. On a bien expliqué aux clients qu'est-ce qui s'est passé. Il y en a qui sont contre nous, il y en a qui sont pour nous. Ils disent que oui, vous avez raison. Les toilettes sont importantes dans les gares. Je me suis rendu compte avec la grève. Avant, j'ai travaillé comme ça, j'ai dit je suis Madame Pipi, personne ne me regardait. Avec la grève, je me suis dit c'est vrai mon travail, il est très important. Vraiment, je respecte mon travail.
On s'est battu 10 jours, mais pas pour rien. Et on est prête pour recommencer si ce n'est pas comme il faut.
On n'a pas le choix, il faut vivre. Moi, je ne vis pas pour travail, mais je travaille pour vivre.
Il y a deux équipes, hein, de 6h à 15h et de 15h à minuit. Minuit, hein. On rentre chez nous à 1h du matin. Donc on commence à 6h, on ouvre les toilettes et les clients commencent à entrer. Ils paient 50 centimes et puis on fait les ménages. Donc on voit tout, des seringues et tout, on ramasse. On...
Donc ce sont des toxicomanes hein, qui...
Oui, les toxicomanes. Et force d'entrer. Je paye ou je paye pas, je rentre comme ça. Donc oui.
Vous les laissez faire?
Oui, les gens sont... Il y en a qui sont violents. Qui...
Moi, je connais madame, je connais tout le monde, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, je passe ici, je fais mon petit pipi tranquille, c'est toujours propre, machin comme ça, il n'y a pas de souci.
Non, mais elle fait son job, moi, je suis fier d'elle. Elle mérite un bisou.
Un truc tout bête. Ici, il pourrait y avoir un appareil à monnaie. Vous voyez ce que je veux dire?
Pour remplacer les salariés.
Eh ben non, moi, je trouve que c'est très, très bien. Monsieur qui me rend la monnaie, je trouve ça très, très bien. Ça fait une vie sociale.
Mais alors vous venez aux toilettes et vous vivez une aventure humaine, en fait.
Exactement. Mais j'aime les gens, moi. Vous comprenez ce que je veux dire? Et la dame, elle est comme moi.
Bonjour, Madame Pipi. Ça gêne un peu. On est Dame Pipi. Mais bon, moi, je préfère que veut dire Madame de service de nettoyage, voilà, ou agent de service.
On voit tous les jours les gens qui sont très sales et les gens aussi qui font exprès. On voit tout ici.
Il fait pipi partout, voilà. Même il fait caca partout. Il se lave les jambes dans les lavabos, il crache dans les lavabos. La dame qui va, elle est carrément capable de se monter sur le lavabo et fait pipi dans le lavabo. Mais ils le font exprès.
Mais pourquoi? C'est quoi leur raison?
Parce qu'ils pensent que nous, on prend l'argent pour nous. Et ils pensent que ça n'existe pas un patron derrière nous. Vous êtes payé pour ça. Vous êtes payé pour nettoyer. Oui, je suis payé pour nettoyer, mais pas pour que vous me faites exprès.
Donc en fait, ils veulent se venger d'avoir à payer, c'est ça?
Voilà, c'est ça. Moi, ça m'est arrivé une fois. Est-ce que vous pouvez m'aider dans les cabines? C'est pas une personne malade et c'est pas une femme. Si c'est une femme, je peux la aider. Il y a pas de souci. Mais c'est un monsieur. Non, non, ça m'est arrivé. Hein.
Et vous faisiez des propositions malhonnêtes,
oui,
quoi.
Voilà, j'ai dit quoi? Pardon?
Les odeurs, ça vraiment, ça pue. Parfois, on trouve le sang.
Et après, faut nettoyer ça.
Il faut nettoyer. Bah oui, c'est notre boulot. On s'est habitué, maintenant. On est obligé. C'est pas on peut, mais on est obligé. Parfois, je dis madame, mettez-vous à ma place. Comme ça, vous comprendrez. Oui, mais je suis pas à votre place. Mais heureusement.
7 milliards de voisins, c'est maintenant.
Voilà, c'était donc le combat des dames pipi. Vous nous le disiez d'ailleurs, Sylvain Passieux, certaines réfutent hein, cette appellation, mais en même temps, c'est...
Mais en même temps, je trouve ce qui est important, c'est qu'on voit que c'est pas toujours les... C'est des gens, les manucures dont je parlais, les coiffeuses, et puis là, ces dames pipi, c'est des gens dont on pourrait se dire ils pourraient jamais relever la tête. C'est les gens peut-être les plus écrasés par l'exploitation, et pourtant, ils se battent, et pourtant, ils gagnent. Et donc, je pense que c'est un exemple pour nous tous. C'est des luttes qui sont vraiment courageuses et exemplaires.
Ouais, que créent les grèves finalement dans la prise de conscience de l'utilité d'un métier auquel soi-même forcément on ne croit pas énormément?
Je pense que c'est des grèves aussi qui permettent de briser les barrières. Là, dans ce quartier de Château d'Eau où il y a ces salons de coiffure afro, ils sont très isolés finalement du reste du quartier. Et le moment de la grève, ça permet des échanges, des rencontres, des soutiens des habitants, des discussions. Et puis même entre les salariés chinoises et les salariés ivoiriennes, elles ne se parlaient pas forcément. Il y a la barrière de la langue, la barrière de la culture. Mmh. Et voilà,
de donc la nourriture voilà, aussi, la nourriture. Parce que chacun cuisine son propre plat.
Voilà, c'est ça. Donc elles se sont mises en commun autour du mafé et puis des plats chinois. Ça allait mieux.
Gauze, on aurait eu encore beaucoup de choses à dire sur le métier de vigile, notamment, moi j'ai appris ce que c'était qu'une cage de Faraday. Enfin si, j'avais appris ça en cours de physique, mais j'ai compris pourquoi les vigiles avaient besoin de savoir ce que c'était quand on traque les faucheurs en tout genre dans les parfumeries.
Tout à fait. La cage de Faraday, en fait, c'est du papier aluminium dans du sac pour éviter que le portique sonne quand on vole quelque chose.
Et qu'on n'a pas pu enlever l'antivol, c'est
voilà,
ça?
Voilà, c'est ça.
Résultat, le vigile est obsédé par les cabas trop rigides.
Ouais, les parois de sac trop rigides, ouais, il s'est dit qu'il y a quelque chose qui va pas.
Ouais, et puis j'ai découvert aussi que la géopolitique avait des répercussions sur le métier de vigile. Le printemps arabe en Tunisie, ça a donné quoi?
Ça a donné les révolutionnaires dans...
Qui sont les révolutionnaires dans les parfumeries?
Alors la révolution tunisienne a jeté beaucoup de Tunisiens par-delà de la Méditerranée. La première fois, ils avaient envie de sortir et tout ça. Et bien évidemment, ils n'avaient pas grand-chose à faire en France. Donc la plupart commettaient quelques petits larcins, notamment. Et ils étaient faciles à repérer. C'était assez drôle.
Et ça donnait dans l'oreillette entre vigiles. Attention, il y a des révolutionnaires qui tournent au maquillage.
Ouais, c'était l'occasion de faire quelques jeux de mots un peu bien placés, quoi.
Tout n'est pas qu'ennui, finalement, dans ce métier. Entre vous, vous rigolez
non,
bien.
Mais
il y a des dialogues qui pourraient donner lieu à des films
fait,
extrêmement créatifs.
Il faut se créer une vie intérieure intense pour tenir le coup. Donc,
ça a été votre cas et ça a donné debout payé. Merci à vous, Gauze. Vous êtes aujourd'hui, entre autres, rédacteur en chef de Yéyé Magazine.
Ouais.
Et merci infiniment d'être venu. C'est publié chez Le Nouvel Attila et Sylvain Patieu, historien, auteur de Beauté Parade. Ça, c'est aux éditions Plein Jour.
Et je passe juste le bonjour à mes amis du Sénégal. Et puis, j'ai peut-être aussi des gens qui m'écoutent au Liban et au Cambodge.
Bon, et voilà. Je passe le bonjour à Copa Barry.
À Copa Barry et à Didier Drogba. J'ai une petite pensée pour Didier Drogba qui n'a pas gagné la CAN.
Merci encore debout. Bravo. Merci les voisins et les voisines pour vos témoignages. Et merci à toute l'équipe.